7h25. Il y a quelques éléments à retenir de ce point de presse. Hier, d'abord, l'importance, on l'a dit jeudi, et même très souvent, de la vaccination. Il faut augmenter la cadence de vaccination au Québec et faire en sorte qu'un maximum de gens soient vaccinés le plus rapidement possible. Là, il semble que les approvisionnements vont suivre. Et là, c'est à la machine de livrer dans les prochains jours. Il y aura un point de presse, d'ailleurs, ce matin, du ministre Christian Dubé, notamment sur la vaccination des gens qui ont des problèmes de santé, des maladies chroniques et aussi pour ceux qu'on identifie comme étant des travailleurs essentiels. Donc, on va parler de vaccination, mais également des mesures qui ont été annoncées hier. Il y a peu de choses, mais il y a toute la question de l'école, bien sûr, avec le retour au mode alternance pour les secondaires 3, 4 et 5. Notre invitée, Dr Caroline Couache, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue également, elle est à l'hôpital Sainte-Justine. Dr Couache, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, je vais vous parler du vaccin AstraZeneca qui demeure le mal-aimé des vaccins. Encore ce matin, on attend un point de presse de l'Europe. Certains spécialistes parlent d'un lien entre quelques rares problèmes de santé et le vaccin. Comment vous faites pour vendre le vaccin AstraZeneca aux citoyens qui disent « je préfère attendre ». Je comprends que hier, Québec a dit « on va prendre des 100 rendez-vous » puis les gens de 55 ans et plus, en pleine conscience, pourront avoir accès au AstraZeneca. Mais comment vous dites aux gens « là, vous pouvez le prendre, ce vaccin-là, plutôt que d'attendre »
Bien, je pense que, premièrement, c'est un risque qui est très faible. Malgré tout, on a quand même fait preuve de prudence en disant « bon, chez les plus jeunes, chez qui la complication semblait survenir davantage et chez qui le risque de complications et de décès de la COVID était beaucoup moins important, on s'est dit on peut se permettre d'attendre 2, 3, 4 semaines pour qu'ils aient un autre vaccin plutôt que celui-là. Maintenant, pour les plus âgés, je pense que tout réside dans le consentement éclairé. Si vous voulez être protégé maintenant, ce vaccin-là, il fonctionne très bien. Là, sur le terrain, quand on l'utilise, même chez les 70 ans et plus, il prévient les décès et les hospitalisations de la même façon que Pfizer et Moderna. Donc, c'est une question de dire, bon, j'ai peut-être un très, très faible risque d'avoir une complication. Maintenant, cette complication-là, elle est traitable. Maintenant qu'on a compris ce que c'était, les décès ne devraient plus survenir parce qu'en fait, au départ, les décès qu'on a eus, c'est des gens qui se présentaient avec un caillot qui était traité comme un caillot normal, avec de l'héparine, parfois même avec une transfusion de plaquettes, et ça avait l'air d'empirer les choses. Maintenant, on a un protocole de traitement. On sait que si on commence par regarder les plaquettes, on fait un frottis, on essaie de voir si vraiment c'est cette entité-là et en traitement avec des immunoglobulines et avec des anti...
Mais là, docteur, quoi, j'étais en train de me perdre là, avec vous.
Excusez. Tout ça pour dire que maintenant, on est capable de traiter cette complication-là et que quand on regarde notre risque personnel d'avoir des complications de la COVID versus attendre plus longtemps et qu'on est tout à fait au fait de ces complications-là, je pense qu'on est capable de prendre ce vaccin-là. Il marche bien, mais je comprends que d'un point de vue marketing, là, c'est compliqué à vendre.
OK. Deuxième question, on parle beaucoup des variants. Et beaucoup d'auditeurs m'ont écrit en disant « j'ai été vacciné, je suis sur le point de l'être ». La première dose, qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité des vaccins qui sont administrés face aux variants?
Bien, les vaccins qu'on a jusqu'à maintenant, l'AstraZeneca, le Pfizer, le Moderna, marchent tous très bien contre le variant britannique. Le Pfizer a émis un communiqué de presse la semaine passée qui disait qu'avec deux doses, il marchait à 100% aussi contre le variant sud-africain. Donc, on en est là. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que bon, tu sais, il y a eu beaucoup de discussions dans la communauté scientifique à dire si vous donnez juste une dose puis qu'on est à moitié protégé, on va faire ressortir le risque que des variants se propagent. En fait, il y a eu un papier qui a été super bien expliqué en fin de semaine ou la semaine passée dans Nature qui dit que ce risque-là n'est pas là. C'est un risque théorique qu'une protection qui est distribuée à la plus grande échelle va permettre de diminuer la transmission du virus et ne fera pas la promotion du développement d'un variant. Donc, ça marche contre le variant britannique et c'est la grande majorité des variants qu'on a présentement au Québec.
Est-ce qu'on connaît avec plus de précision, dirons-nous, la durée d'efficacité du vaccin? Est-ce qu'il est bon pour un an, il est bon pour deux ans? Est-ce qu'on va devoir se faire vacciner à nouveau dans un avenir pas si lointain?
Ça, on ne le sait pas encore. Moderna a sorti sorti un papier il n'y a pas longtemps là, qui dit que 6 mois plus tard, ils trouvent encore des anticorps, beaucoup plus chez les plus jeunes que chez les plus âgés, que ces anticorps-là sont encore capables de neutraliser. Maintenant, le grand problème avec toutes ces études-là, c'est qu'il n'y a pas de corrélat de protection. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez plein d'anticorps que vous êtes nécessairement protégé, et c'est pas parce que vous avez peu d'anticorps ou pas d'anticorps que vous n'êtes plus protégé. Mais on sait quand même qu'à 6 mois, il reste des anticorps, ce qui est quand même rassurant, mais on peut pas vous dire pendant combien de temps ça va protéger, puisqu'on n'en est même pas à 1 an d'utilisation de ce vaccin-là.
OK. La question qui revient aussi beaucoup, il y a un objectif, on peut comparer avec d'autres pays, les Américains parlent du 19 avril là, pour la population adulte, Israël a un taux de vaccination très élevé, et ici c'est le 24 juin, donc la fête nationale. Et on nous présente ça comme étant l'ouverture, la porte, si on veut, sur une certaine normalité, un retour à une certaine vie là, un peu plus régulière. Quand les Québécois seront majoritairement vaccinés, ça va ressembler à quoi, selon vous, notre vie en société?
Quand on sera vacciné avec 2 doses, je pense qu'on va pouvoir reprendre la vie à peu près normale. Maintenant, le seul bémol, je vous dirais, là, c'est est-ce qu'il y a un variant quelque part qui va avoir surgi, qui va être capable de déjouer les vaccins? Si c'est pas le cas, on va reprendre une vie à peu près normale, c'est-à-dire qu'on va être capable de se voir entre personnes vaccinées à tout le moins. Les événements vont reprendre. Est-ce qu'on va reprendre d'emblée les grands événements où il va y avoir un mélange de vaccinés et de pas vaccinés? Ça, je pas encore sûr, et ça va dépendre justement de la proportion de gens qui se feront vacciner. Parce que si on en demeure à peu près à 50% de vaccinés, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut vraiment atteindre 80-85% de vaccinés pour être capable de mettre des espèces de tampons entre les personnes non vaccinées pour ne pas qu'il y ait de transmission soutenue. Mais si la grande majorité des Québécois est vaccinée et qu'il n'y a pas de variant qui vient nous déjouer, à ce moment-là, je pense que la vie à peu près normale aura reprise. Mais quand est-ce que ça va arriver, ça va dépendre aussi de la rapidité à laquelle on réussit à se faire vacciner.
Parlons des mesures. C'est toujours un équilibre, on le sait, là, puis ça varie. On parlait du AstraZeneca en Allemagne, c'est pour les 60 ans et plus. Ici, 55 ans et plus. En Ontario, on a des mesures qui sont différentes. Ma question va être simple. Quand des scientifiques, là, je parle pas là, des gens comme moi là, qui analysent l'actualité, mais des gens qui sont des comme vous, des spécialistes, des experts, et qui disent, par exemple, au gouvernement, il faut serrer la vis davantage. Comment vous vous situez face, par exemple, à la santé publique? Moi, j'ai des experts que j'entends qui disent, là, il faut donner un coup, les demi-mesures donnent des demi-résultats. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que, tout d'abord, comme scientifique, on a accès à une partie des données, c'est-à-dire le côté scientifique. On n'a pas accès nécessairement à toutes les données granulaires d'éclosion et d'épidémiologie au niveau québécois ou canadien. Et que par ailleurs, on prend une décision, quand on fait une recommandation ou d'un point de vue scientifique, on ne prend pas nécessairement en compte tout le reste de la vie. C'est-à-dire que la santé est plus que juste le nombre de cas. C'est sûr que si on voulait avoir un nombre de cas à zéro, on ferme tout puis on reste tranquille jusqu'à temps que tout le monde soit vacciné. Mais la santé, c'est au-delà du nombre de cas. Et donc, le gouvernement est obligé de regarder non seulement le nombre de cas, de regarder les hospitalisations, mais de regarder aussi la santé mentale, la vulnérabilité autre, la vulnérabilité sociale, l'économie. Et donc, c'est en prenant en compte de tous ces éléments-là que eux viennent à une décision qui, parfois, on a l'impression que c'est couper la poire en deux, mais ils n'ont pas vraiment le choix là, que de couper la poire en deux. Je pense qu'ils iraient sur un confinement très, très sévère si on voyait que vraiment on était débordé et que les hôpitaux étaient en train de craquer. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de demi-mesure possible. Mais quand on a encore du jus, ce qu'on essaie de faire, c'est de ralentir la transmission pour qu'on puisse vacciner le plus rapidement possible pendant ce temps-là, donner une protection au plus grand nombre de Québécois possible sans tuer l'économie, sans mettre à genoux tous ceux qui sont déjà fatigués de cette pandémie-là. Donc, comme vous le disiez, cet équilibre-là est très difficile à atteindre. Et honnêtement, je suis très contente de ne pas être dans leurs souliers parce que c'est pas une décision qui est facile. La prendre. Il y a tellement d'éléments à regarder. Puis ils ont des demandes. Les gens les appellent pour dire, mais moi, je veux tel truc, puis moi, je veux tel autre truc. Je veux dire, les scientifiques qui les appellent pour leur dire, vous devez confiner. Mais de l'autre côté, il y en a un autre qui l'appelle pour dire, mais moi, je veux que mon commerce ouvre parce que j'y arriverai pas. Donc, c'est cet équilibre-là qu'ils sont obligés de rechercher en tout temps.
Je vais vous parler des enfants, parce qu'on a vu que dans les éclosions récentes, donc avec de plus en plus une dominante de variants, ça se passe beaucoup en milieu de travail, ça se passe beaucoup dans les écoles. Je sais aussi, là, j'ai lu que les pharmas font des tests pour peut-être vacciner éventuellement des enfants. Est-ce que vous pensez d'abord que les enfants vont avoir besoin d'un vaccin?
Ils vont avoir besoin d'un vaccin si on veut être capable d'atteindre notre immunité collective. Les enfants représentent quand même 20 % de notre population. Et si on parle d'une couverture à atteindre autour de 87,5 % je veux dire, mathématiquement, on s'en sort pas. Par ailleurs, si on veut que les enfants puissent retrouver une vie, eux aussi, à peu près normale, pas de masque à l'école, activité parascolaire et tout, tu sais, la vaccination va jouer son rôle là aussi. Non pas parce que les enfants sont malades de façon sévère et qui sont à l'hôpital, mais parce qu'il y a quand même des risques de complications, parce qu'ils maintiennent quand même la transmission et que tant et aussi longtemps qu'il va y avoir un groupe au sein duquel ça se transmet, si le vaccin n'est pas efficace à 100 %, il risque d'y avoir aussi des échappés probablement dans des groupes plus vulnérables. Donc, ça va être la prochaine étape, là, je pense que ça va être de vacciner les enfants, en commençant par ceux qui sont à plus haut risque, évidemment, de complications, mais pour donner aussi cette protection-là, pour leur permettre de recommencer à vivre normalement, là, parce que autrement, si on est toujours en train d'être obligé de courir après les éclosions, je pense que tout le monde va devenir complètement fou. Là. Eux aussi, les enfants ont besoin de retrouver leur vie normale.
Merci beaucoup, Dr. Kouache. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir, Dr. Caroline Kouache, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue également à l'hôpital Sainte-Justine.